Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je veux vous dire un peu comment je suis arrivé au message que je vais vous donner maintenant. Il y a quelque temps, j'étais avec des amis chrétiens. Et quelqu'un est venu un matin en disant, mais hier soir, j'ai prié et puis il m'a semblé que, enfin, j'ai vu Dieu pleurer. Ah bon, Dieu pleure. J'étais surpris. Puis il disait, mais en fait, c'était en rapport avec ce que dit le verset d'Osée 4,6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'était ça qui provoquait ce chagrin de Dieu. Après, il a dit le matin, il a eu une autre manière de voir Dieu qui ne pleurait plus. Bon. Mais ça m'a frappé quand même, ce verset. Je me dis, est-ce que ça nous concerne d'une manière ou d'une autre? Parce que, au fond, c'est une parole qui est adressée au peuple d'Israël. C'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, donc ça nous concerne beaucoup moins. Quoique, mon peuple périt, ça peut aussi concerner l'Église, parce que dans Apocalypse 3.1, la lettre à l'ange de l'Église de Sardes dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et là, c'est la Nouvelle Alliance. Et puis la suite dit, sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, et garde-la et repens-toi. Et il y a cette promesse, le vainqueur recevra des vêtements blancs et son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Donc c'est sérieux, c'est une interpellation pour cette église qui va loin. Tu es en danger, tu es en danger de mourir, fais attention, sois vigilant et rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la, repens-toi, change de direction, reviens à moi. Et celui qui va faire cela, eh bien, il y a une magnifique promesse qui est là pour lui. Donc une parole forte et une parole importante, et au fond, c'est assez tragique. Dieu se révèle, Dieu se fait connaître à son peuple, mais c'est comme si le peuple n'entrait pas vraiment en matière, comme s'il se privait de ce qui doit le faire vivre. Et c'est pareil pour l'Église. Oh, nous ne sommes plus du monde, on dit, mais nous avons intérêt à bien connaître celui qui nous a rachetés, celui qui est mort pour nous, celui qui veut nous faire vivre de sa vie. Et pour cela, ben, il faut de la connaissance, il faut apprendre comment vivre cette vie nouvelle. Et c'est quoi la connaissance? C'est savoir, c'est comprendre, c'est discerner. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour connaître, pour savoir, il y a un effort à faire. Il faut entrer en matière. Il faut apprendre. Il faut retenir, pratiquer ce qu'on a appris. Et si on pratique, si on répète régulièrement, c'est bon. On a cette connaissance, elle est gravée en nous. Mais si on la voit une fois ou deux, on l'oublie facilement. Et donc, il y a une activité de notre part. Ce n'est pas juste une opération intellectuelle, connaître. En fait, il faut nous battre. Il faut nous battre pour retrouver le chemin de la vie et devenir des vainqueurs dans cette situation. Nous devons nous battre et nous avons besoin de tout le conseil de Dieu, dit Paul à un moment donné dans Actes. C'est-à-dire pas juste ce qui nous console, pas juste ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rassure ou ce qui nous permet de tenir jusqu'à la prochaine fois. Tout le conseil de Dieu. Paul parle aux responsables, aux anciens, dans Actes 20, 26 à 28. Je vous lis ces versets. Et Paul dit ceci, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vous ai tout donné, je vous ai tout dit. Prenez donc garde à vous-même, de nouveau une mise en garde ici, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Tout le conseil de Dieu, pas la moitié, pas une demi-mesure, ne prendre que la moitié du salut ou choisir juste ce qui nous plaît dans ce qui nous est dit, parce que la demi-portion, elle fait plus de mal que de bien. Au fond, c'est à prendre ou à laisser. Et si on prend, il faut tout prendre, tout simplement. Et là, je cite un penseur chrétien, mais c'est une citation qui est, je ne sais pas si on peut la faire dans une église, parce qu'elle est un peu... Enfin, vous allez voir. C'est Kierkegaard, un penseur chrétien danois du siècle... pas du siècle dernier, de l'avant-dernier siècle. Maintenant, c'est le 19e. Et on est dans le 21e, on a déjà fait un quart du 21e, ça va vite. « Imagine une drogue, dit-il, une drogue ayant la vertu à une certaine dose d'être laxative, mais prise à moitié de constiper. » Vous voyez, hein ? Or, voilà quelqu'un qui souffre de constipation, mais pour une raison quelconque, qu'on n'ait pas de dose suffisante ou qu'on craigne qu'elle soit trop grande. Pour faire cependant quelque chose, on lui donne en bonne intention la moitié. Ben, c'est toujours quelque chose, hein ? De même pour le christianisme. Il en est comme de tout ce qui ressort à la catégorie ou bien, la moitié fait l'effet contraire du tout. La moitié fait l'effet contraire du tout. Nous avons besoin de tout le conseil de Dieu et d'aller plus loin que les bases de nourriture solide. On nous a prêché là-dessus plusieurs fois ces derniers temps. Je me souviens qu'Alain Pilecki est venu en disant « Ben oui, on n'a pas besoin de lait maternel, on a besoin du beefsteak maintenant. On a besoin de nourriture solide. C'est dans Hébreux 5, versets 11 à 14, qu'il est dit ceci. Nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et là, il s'agit de Jésus en relation avec Melchisédek. Ce serait tout un sujet aussi à creuser. Nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez avoir, avec le temps, être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux se désole. Celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Besoin de nourriture solide pour aller plus loin, mais pour cela, de nous entraîner, d'être expérimenté et donc de travailler à cela. Je crois qu'on est vraiment appelé à travailler peut-être davantage qu'on ne le fait ou qu'on ne l'a fait jusqu'à présent pour aller jusqu'au bout. Et pour ça, on a besoin d'un esprit de sagesse, d'un esprit de révélation et de le recevoir. Et ça, c'est une parole que Denis, tu as citée dimanche passé, et je vais la relire. C'est dans Éphésiens 1, 17 à 19. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Donc c'est grand, c'est immense. Et nous avons besoin que cela nous soit révélé. Et Paul prie dans ce sens, et nous devons, je pense, nous-mêmes prier dans ce sens pour qu'on ait cet esprit de sagesse et de révélation pour connaître toute la majesté, la magnificence, la grandeur de Dieu. Que le Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que cela nous soit perceptible. C'est important. Il faut voir au-delà de ce qui nous est donné, disons, naturellement, de voir. Et donc, nous devons nous emparer activement de ce que Dieu donne. Vous savez, c'est un peu comme la terre promise. Dieu dit, je vais vous donner une terre nouvelle, terre promise. Ils sortent d'Égypte et puis ils arrivent, ah bon, mais il faut la prendre alors. On doit se battre pour la conquérir, oui. On doit se battre pour la conquérir. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses dans les promesses de Dieu qui sont là. Ben, il faut les prendre, il faut s'en saisir, il faut les conquérir. C'est pas tout cuit. C'est là, c'est donné, et c'est à nous si on le prend. Mais il faut le prendre, il faut s'en emparer. Hein. Et avec violence, s'il le faut. Moi, j'ai toujours été frappé par cette parole de Jésus dans Matthieu 11, versets 12 et suivants. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et plus loin, il dit, à qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur les places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé ? Nous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamenté. En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas, et l'on dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Vous voyez, dans tous ces versets, il y a toujours deux choses. Il y a écouter la parole, apprendre, connaître et mettre en pratique. C'est comme les deux mains, il faut les deux pour agir. L'un ne va pas sans l'autre. La mise en pratique, elle est indispensable. Vous vous souvenez de la parabole, des deux maisons, celle qui est construite sur le roc et qui tient le coup, celle qui est construite sur le sable et qui est emportée. C'est quoi la différence ? Eh bien, celui qui a construit sa maison sur le sable a entendu la parole, mais il ne l'a pas mise en pratique. C'est la mise en pratique qui fait la différence. Et bon, la mise en pratique, on n'y arrive pas toujours du premier coup. C'est comme la marche. Un enfant qui apprend à marcher, il fait un pas, il tombe, il se relève, et puis peu à peu, il y parvient. C'est un élément après l'autre. On tombe, on se relève, et on continue, même si c'est difficile. On sait que les choses ne vont pas toujours du premier coup. Et il ne faudrait pas qu'on soit comme cet homme dont parle l'épître de Jacques, on a lu ça cette semaine, si vous avez suivi le plan de lecture du Nouveau Testament, cet homme qui se regarde dans le miroir et qui, juste après, ne se souvient plus de ce à quoi il ressemble. Hein ? Je vous le relis, ce passage, Jacques 1, 22 à 25. Pratiquez la parole. Pratiquez la parole, c'est déjà là. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant, en vous trompant par de faux raisonnements. Les faux raisonnements, on a vu avant, à propos de Jean, il a un démon, à propos de Jésus, ouais, mais c'est un buveur, un glouton, etc. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui, après s'être regardé, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, il insiste, celui-là sera heureux dans son action même. Donc heureux dès le moment où il la pratique, pas seulement plus tard en espérance, mais au moment où il entre en matière, où il y va, il commence à être heureux. et pour nous aujourd'hui. Hein, c'est un peu comme dans les commentaires de Philippe à la fin de ses commentaires sur les passages du Nouveau Testament. Et pour nous aujourd'hui. Ben, moi, j'ai l'impression qu'on a peur d'entrer à fond dans ce que Dieu donne. Notre Église, il paraît que c'est une Église ouverte au don du Saint-Esprit, mais est-ce qu'on entend beaucoup de prophéties? Est-ce qu'on entend beaucoup de paroles de connaissance? Moi, je crois qu'on souhaiterait davantage de guérison, etc. On le souhaite, on n'a pas envie de lâcher peut-être certaines sécurités, mais je crois que nous avons à nous encourager les uns les autres, vraiment, à nous encourager les uns les autres, à progresser pour avancer dans cette vie que Dieu veut nous donner. Ça fait partie du conseil de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est aussi quelque chose qui s'appelle la théologie, quand elle est mise en pratique. C'est quoi la théologie ? On a entendu Charles Bourgounder qui dit « Ah, moi j'aime la théologie, là, je suis passionné par la théologie, etc. » Oui, on voit, il en parle avec beaucoup de conviction. Mais il y a deux choses dans la vie chrétienne. Il y a les choses qu'on vit avec le Seigneur. On vit des expériences qui sont parfois des expériences très profondes, qui nous touchent et qui nous font un bien fou. On se dit « Mais ça, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est tellement bienfaisant. Là, je touche vraiment quelque chose d'essentiel dans ma foi. » Oui, oui. Et on peut avoir des expériences spirituelles fortes qui nous paraissent bien plus fortes, bien plus significatives que la théologie. Mais la théologie, c'est de la théorie. Hein ? Moi, ce que je vis, c'est bien plus fort que cette théorie. Et si je suis au bord de la mer, sur une plage, et que je prends plaisir devant le paysage, c'est bien plus fort que si je regarde la carte topographique qui représente cette plage, hein, qui montre l'endroit où je vais, moi, regarder le coucher du soleil et les belles couleurs de tout ça et m'en enchanter. Je vois la carte, c'est plat, c'est vraiment très sommaire. Ben, la théologie, c'est un peu comme la carte topographique. Seulement, cette carte, c'est aussi la synthèse des observations et des expériences de milliers de personnes. Et j'en ai parfois besoin pour voir plus loin que le bout de mon nez et pour me diriger, pour me situer. Et un navire qui voudrait traverser la Méditerranée pour aller en Égypte, bon, enfin, pourquoi est-ce qu'on irait en Égypte ? ou dans un autre endroit. Le navire qui veut traverser, il a besoin de la carte, pas seulement du ressenti du capitaine. Hein, il faut une carte parce que ça permet d'éviter les écueils, ça permet d'aller à coup sûr dans la bonne direction. Mais la carte, ce n'est pas le territoire, ce n'est pas la réalité du terrain. C'est encore mieux qu'un GPS, parce qu'un GPS... C'est comme ces pancartes où vous êtes ici, on est tout le temps ici, ici, ici. On n'a aucune vision d'ensemble. Bon. Et on laisse l'intelligence artificielle nous diriger. On a besoin d'un peu de théologie, peut-être plus qu'un peu, pour s'orienter, pour éviter certains écueils. Les écueils, c'est par exemple des hérésies. Mais les pères de l'Église ou des penseurs depuis longtemps ont essayé de déterminer ce qu'était la vraie doctrine chrétienne et quels étaient aussi les écueils, les hérésies, les fausses doctrines sur lesquelles on pourrait tomber. Par exemple, qui est Jésus ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est né à un moment donné de la Vierge Marie, etc., et puis qui en dit ensuite qu'il était le Christ ? Quelle est sa nature ? Qu'est-ce que c'est que la Trinité ? Hein, c'est des choses difficiles et on peut très facilement se tromper ou être trompé. C'est important qu'il y ait des gens qui aient réfléchi à ça. On dispose de résumés très condensés de ce qui est l'objet de la foi chrétienne. Ça s'appelle le symbole des apôtres. je crois en Dieu Tout-Puissant, etc., ou le credo issu du concile de Nicée-Constantinople. C'était avant la Réforme. Hein, on peut s'y référer. C'est un peu comme des boussoles. C'est pas suffisant. C'est juste une carte, un résumé, mais ça aide. Mais je vais juste prendre un exemple. Et vous verrez où ça nous conduit. Ben justement, dans ce symbole des apôtres, ou dans le credo, dans cette confession de foi chrétienne, il est dit de Jésus-Christ qu'il est né du Père avant tous les siècles et qu'il a été engendré et non pas créé, et que par lui tout a été fait. Engendré, mais pas créé. Bon, et puis alors, quelle importance ? Il y a une grande différence entre engendré et créé. Un animal, un castor, qu'est-ce qu'il va engendrer ? Des castors. Les souris engendrent des souris. Les chats, des chatons. Les hommes et les femmes, des enfants humains. Engendrer, c'est produire des êtres semblables à soi. Et Dieu, ben c'est pareil. Dieu engendre Dieu. Dieu, le Père, engendre le Fils. Et cela avant tous les siècles, tout le temps, par nature en quelque sorte, avant la création, depuis toujours. Il n'y a pas eu un moment à partir duquel le Fils a été engendré. Il était même là au moment de la création. Vous voyez, engendré, et tout à coup, on comprend mieux, Dieu engendre Jésus de même nature que lui. Puis la création. Alors, ce que je crée, ça me ressemble d'une certaine manière. C'est moi qui l'ai fait. J'y mets ma patte, ma main, mon énergie, etc. Et la création, la grande création, avec C majuscule, elle nous parle de Dieu. Elle témoigne de lui. Nous y voyons son empreinte. Mais la création n'est pas Dieu. Dieu a fait les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas la même nature. Nous sommes sa création. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Et même quand nous créons, nous ne pouvons pas créer des hommes comme nous. Hein, les artistes, les sculpteurs, même les excellents sculpteurs, peuvent créer des statues extrêmement ressemblantes, magnifiques, mais ce sont des statues, c'est inerte. Hein, ce sont des statues d'hommes, mais pas des hommes. Elles ne sont pas vivantes. Et si tout à coup, une statue se mettait à vivre, ce serait un prodige. Ce serait un truc incroyable. Mais vivre vraiment une vie humaine. Hein. Je pense pas aux robots et aux projets qui sont devant nous. Il paraît qu'on va avoir tous besoin d'ici quelques années d'un robot à la maison. Qu'est-ce que ça change pour nous ? Je crois que ça change tout. Parce que le plan de Dieu, c'est de nous appeler à lui et de nous transformer pour que nous devenions semblables à Jésus. Que nous devenions des petits Christ. On sait, il veut nous donner un cœur nouveau, il veut mettre son esprit en nous, il veut nous faire vivre de sa vie à lui. Et c'est comme si nous étions des statues qui prenaient vie tout à coup. Il veut nous faire changer de statut, de nature, de vie. C'est pas plus seulement la vie naturelle, la vie bios, mais la vie spirituelle, zoé. Dieu est amour et il nous appelle, il veut nous faire changer de nature. Notre vie naturelle, on la connaît bien. Hein. Par nature, on est égocentrique, on veut être aimé, on a envie d'être admiré, on aime bien être cajolé, profiter de la vie des autres, aussi de les exploiter s'il faut. Et on se protège spontanément de tout ce qui nous ferait sentir petits. Ça, c'est terrible. Et notre vie naturelle sait bien que si la vie spirituelle s'empare de nous, ben, tout cet égocentrisme va être mis à mal et spontanément, on fait tout pour que ça n'arrive pas. On n'en veut pas. Moi, je n'ai jamais choisi de devenir chrétien. Hein. C'est parce que Dieu est venu puis m'a appelé, mais spontanément, je ne cherchais pas. Je ne cherchais pas. J'étais plutôt dans une toute autre direction. Et donc, notre vie naturelle, elle s'oppose à cette vie spirituelle. Mais Dieu appelle l'humanité à changer. Il nous appelle à devenir fils de Dieu, à passer de l'état de choses créées à l'état de choses engendrées, à passer de la vie biologique éphémère à la vie spirituelle éternelle. C'est ça le salut. Alors nous sommes sauvés en principe, mais c'est comme la terre promise. Il faut que chaque membre de l'humanité s'approprie ce salut. Et comme nous venons de loin et que nous sommes marqués, abîmés par le péché, c'est une métamorphose qui est difficile. Ça prend du temps. C'est naître de nouveau. Et une naissance, je crois que les femmes savent bien que c'est donner la vie, c'est douloureux. Et puis, je ne me souviens pas, quand je suis né, de ce que signifie ce passage du sein maternel à l'atmosphère générale. Hein, c'est difficile de toute façon. Ça prend du temps. Il faut apprendre à marcher. Il faut passer par l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, au statut d'homme fait, de personne accomplie. Donc, il y a un chemin. Mais ce qui est étonnant, on dit, mais il faut prier. Qu'est-ce qu'il faut prier? Jésus dit, voici comment il faut prier. Notre Père. Et quand nous disons notre Père, au début, on fait comme si on occupait la place de fils ou de fille de Dieu. C'est peut-être pas encore vraiment complètement réalisé ou effectif. On dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, je prends cette place de fils ou de fille de Dieu. Je revais le Christ, hein, comme dit la Bible, d'une certaine manière. Au fond, je fais semblant, je fais comme si j'étais déjà dans cette situation-là, mais c'est ce que Dieu nous demande, c'est comme ça que Jésus a dit qu'il fallait prier. Et souvent, la meilleure manière d'acquérir une qualité, c'est d'agir comme si on l'avait déjà. On fait comme si on l'avait déjà, on agit et peu à peu, on s'approprie cette nouvelle qualité. Si on a l'habitude de dire des mensonges, on dit non, je fais comme si je disais plus de mensonges et je m'entraîne à ne plus en dire. Et on essaye d'attraper le statut de petit Christ par contagion avec Jésus, en se laissant imprégner par lui. Et on progresse. Et puis, il y a des moments où ça coince parce qu'on voit bien qu'on a des pensées, des désirs, des comportements qui résistent et qui ne sont pas compatibles avec cette nouvelle nature de fils de Dieu ou de fille de Dieu. Et effectivement, ils ne sont pas compatibles. Et on doit lâcher prise, on doit les quitter. Mais le Christ est en même temps à nos côtés. Et il nous aide dans cette progression. On n'est pas livré à nous-mêmes dans tout ce processus. Dieu intervient et nous aide à grandir pour lui ressembler de plus en plus. Jésus est à nos côtés. Sinon, je crois qu'on n'y arriverait pas. Donc Dieu fait tout pour nous aider à passer ce cap. Vous savez qu'un œuf, c'est un oiseau en puissance. Hein ? S'il est couvé, eh bien, il y a un poussin qui naît et puis qui devient ensuite un plus grand oiseau. Alors, pour un œuf, c'est difficile de se transformer en oiseau. Mais imaginez ce serait encore beaucoup plus difficile d'apprendre à voler en restant un œuf. Ça ne va pas. Hein, ça va pas. Il faut que l'œuf soit couvé, que l'oiseau puisse naître, grandir un peu, et ensuite il peut voler. Hein. Ben, au départ, on est un peu comme des œufs. Et on ne peut pas rester indéfiniment un œuf ordinaire et banal. Il faut être couvé ou bien pourrir. Et l'Église, c'est une bonne couveuse. L'Église est une bonne couveuse. Et il ne faut, faut pas avoir peur de réunir des gens qui vont être couvés, puis ensuite éclore et devenir des fils et des filles de Dieu accomplis. Parce que Jésus nous dit, mais soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Oui. Au fond, quand on fait appel à Dieu, c'est comme s'il nous imposait le traitement complet. Hein. C'est pour ça aussi qu'il nous est dit, calculez la dépense. Mais pour nous ici, nous sommes embarqués. Hein. On continue d'aller de l'avant, même si nous nous sommes dit que nous n'avons jamais voulu devenir des saints, en disant, ouais, mais si au moins je devenais un type correct, ce serait déjà pas mal. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce qu'au fond, si on suivait les conseils de Platon ou de je ne sais pas quel autre, ou d'Aristote, etc., si tout le monde faisait ça, l'humanité irait mieux. Et on serait des gens assez corrects, en suivant juste les conseils de l'Évangile, pareil. Mais non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. L'important, ce n'est pas ce que nous avions l'intention d'être ou de devenir, mais de devenir ce que Dieu voulait que nous devenions quand il nous a créés. Il ne voulait pas faire de nous des braves gens, mais des hommes nouveaux. Et on passe de l'état de créature de Dieu à celui de fils et fille de Dieu. C'est un bel engagement, c'est un engendrement, une transformation volontaire, parce qu'on peut la refuser. Alors, devenir des êtres nouveaux, c'est perdre ce que nous appelons notre moi, laisser de côté notre propre volonté et laisser Jésus nous transformer. Mais c'est ainsi que nous devenons vraiment nous-mêmes et que nous acquérons notre vraie personnalité. Alors, voyez, j'ai commencé en disant, j'ai dit, genre, on va prendre un peu de théologie, engendrer, créer. Et quand on suit cette ligne avec engendrer et créer, on se rend compte qu'on est embarqué dans quelque chose qui est fondamental et qui nous parle et qui nous touche en disant, mais oui, je veux pas rester coincé au milieu du processus, je veux aller jusqu'au bout, je veux vraiment acquérir cette liberté que Dieu nous promet et puis recevoir tous ces privilèges qui sont ceux du Fils et de la Fille de Dieu. Donc un peu de théologie nous éclaire, nous remet dans le concret de notre vie, devant nos choix, et dessine une perspective de vie qu'on n'avait peut-être pas encore comprise comme ça. Mais bon, ce n'est pas juste une théorie. On a vu à quel point on insistait sur la pratique, la mise en pratique de la parole, la pratique, construire sur le roc. Alors, voilà, j'ai commencé par ce verset d'Osée. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous laisse avec un bout de connaissance. Et c'est une connaissance qui invite à une vie pleine. Pas une vie pleine à la manière du monde dans lequel nous vivons, mais une vie qui nous transforme en fils et filles de Dieu. Alors ça vaut la peine, je crois, d'aller jusqu'au bout. Puis, on a de la chance dans cette Église. Les cours bibliques que donne Philippe, c'est ça. C'est de la théologie. Mais c'est justement ces fondements dont nous avons besoin pour être des chrétiens aguerris et bien équipés pour grandir. Idem pour la lecture du Nouveau Testament. Je crois qu'il y a vraiment, chez les responsables de l'Église, dans le Conseil pastoral, la volonté de nous équiper pour nous, nous permettre d'aller au bout de ce que le Seigneur veut pour nous. Nous avons de quoi acquérir la connaissance qui nous manque et grandir dans notre vie chrétienne. Et c'est tout ce que je nous souhaite. Amen. Père Céleste, merci pour qui tu es. Merci parce que tu as un projet extraordinaire pour chacun et chacune d'entre nous. Tu veux faire de nous tes fils, tes filles, tes enfants adoptifs, des enfants qui ont les mêmes, au fond, les mêmes prérogatives, les mêmes, la même nature que Jésus. Tu veux faire de nous des Christ à sa ressemblance. Et Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit travaille nos cœurs pour nous encourager et nous aider à aller jusqu'au bout de ce chemin, que nous puissions gagner la course, comme dit Paul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.